BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui veut vous donner envie de lire des livres d'économie. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Nous leur consacrerons la première partie de notre émission. Puis nous retrouverons nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, qui vous livreront leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis aujourd'hui, ni Benaouda Abdedaïm, ni Stéphanie Colo ne sont là. Et c'est donc notre ami Gilles Raveau, le professeur d'économie Gilles Raveau, qui vous livrera à la fois son livre d'avant et son livre d'ailleurs, mais tout de suite on démarre avec nos auteurs. Alors aujourd'hui on est sur le terrain, de cette nouvelle économie pour voir concrètement comment les entreprises peuvent tirer parti d'Internet, ce qu'elles ne font pas assez et ce qu'elles ne font pas très bien. Et puis, on verra que dans cette nouvelle économie aussi, il y a tout un tas de nouveaux emplois qui vont émerger et ça va nous faire du bien au moment où on met surtout l'accent sur tous ces emplois que les robots vont faire disparaître. Nos deux invités aujourd'hui, Pascal Kesselin, le premier, bonjour.
Bonjour.
Pascal, vous êtes le fondateur de sefaireaider.com et vous co-signez avec Denis Chalumeau, qui est le fondateur de Promovacances et de seloger.com, réussir grâce au net, aux éditions Michel de Maulle. Notre deuxième invitée, c'est Anne-Caroline Pocot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain prospectiviste. Vous publiez le Dico des métiers de demain aux éditions des Propulseurs. Juste avant de commencer, c'est quoi les éditions des Propulseurs ?
Les Propulseurs, c'est un groupement d'entrepreneurs du numérique, ouais, qui ont créé ensemble une marque et qui ont créé une marque commune. Donc on travaille de façon indépendante ensemble.
D'accord. Alors, avant de parler de votre livre qui est un ovni, hein, on va y revenir, on démarre avec vous, Pascal Kesselin. Vous dites clairement aujourd'hui, Internet, c'est incontournable. Vous avez une statistique qui est effrayante. Plus de 80% des entreprises qui ont fait faillite l'an dernier n'étaient pas sur Internet.
Eh oui. Internet, un nouveau média. Donc, tout le monde a son smartphone dans la poche.
Ouais.
Internet sur les bureaux, sur les tablettes, un peu partout, à la maison. Voir les télés connectées, on utilise Internet pour tout. L'immédiateté, la réponse automatique. Donc oui, et aujourd'hui, pour les professionnels, c'est indispensable de passer par Internet.
Alors clairement, c'est indispensable, sauf que l'adaptation est compliquée. Et vous dites, dans un premier temps, la fracture va s'élargir entre les entreprises qui sont sur Internet et celles qui n'y sont pas.
Oui, ça fait un peu plus de 20 ans que j'accompagne de la TPE en France.
Ouais.
Donc TPE qui maille l'entrepreneuriat français, hein, c'est le plus grand nombre d'entreprises en France.
Ouais.
Donc qui ne sont pas aguerries à ces nouvelles technologies, à cet usage. Donc d'ailleurs, on fait avec sefaireaider.com, on fait un sondage tous les ans auprès des professionnels de services notamment, où on leur demande justement comment ils gèrent cette relation à la numérisation et au digital. La réponse est aussi flagrante, vous allez voir. 80% sont d'accord pour dire que Internet est un outil indispensable et ils comprennent bien que ça va être très utile pour faire de l'acquisition client et pour gérer leur visibilité. Sauf que autant, voire plus, jusqu'à 90% nous disent n'avoir reçu aucune formation et voir cet outil comme souvent, eh bien, d'abord chronophage, voire anxiogène ou très coûteux. En clair, on ne sait pas comment s'en sortir.
Oui, mais ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a une espèce de schizophrénie entre l'entrepreneur, j'ai envie de dire, et puis le citoyen dans la vie privée. C'est-à-dire que les Français se sont très largement accaparés l'outil Internet. Je cite encore un chiffre, hein, 59% des Français achètent en ligne, alors que 11% seulement des entreprises vendent en ligne.
Vous avez tout à fait raison, c'est la différence entre le professionnel qui a besoin de cette visibilité et de traquer l'acquisition client et l'usage de l'internaute lambda que nous sommes tous. Donc on sait tous s'en servir pour ses achats, pour trouver quelqu'un, un service, un restaurant ou autre chose, peu importe. Hein. Sauf que le professionnel, chef d'entreprise, profession libérale, à la tête de cette TPE, ne sait pas comment faire pour ressortir sur les moteurs de recherche. Je ne vais pas citer le plus gros, dont nous sommes tous dépendants, mais comment je vais faire pour ressortir en tête de liste sur ces moteurs de recherche et réussir, du coup, à être visible et avoir cette attractivité.
Alors, on a quand même un vrai problème avec ces petites entreprises. Il y en a quasiment la moitié qui n'ont pas de site. Et quand on regarde les statistiques françaises par rapport aux autres pays européens, on voit que nos PME, elles sont en retard par rapport aux entreprises étrangères, comme elles sont en retard sur l'équipement informatique en général. Comment vous expliquez que nos entrepreneurs français soient moins à la page que leurs voisins européens? C'est culturel, c'est financier, c'est la formation, c'est quoi?
C'est beaucoup la formation, beaucoup la connaissance. Donc moi je dis souvent, j'écris ça avec Denis pour essayer de dédiaboliser justement l'usage de l'Internet pour les professionnels. Parce que souvent ils ont été démarchés par des forces commerciales pour leur vendre du site Internet par exemple. Mais avoir un site Internet, ça sert à quoi si on n'a pas de référencement? Si on est sur la page 25 du moteur de recherche, ça sert absolument à rien. Si ce n'est à se faire plaisir, à mettre ça sur une carte de visite et à faire plaisir à ses amis. Mais ça n'a aucun intérêt. C'est avoir une vitrine au milieu du désert. Donc, ce manque d'information et de formation fait que ces professionnels et ces chefs d'entreprise se sont dit, si ça n'a pas un rapport héroïste, si ça ne ramène pas quelque chose, à quoi ça sert de dépenser de l'argent?
Parce que quand on lit votre livre, en fait, on a l'impression qu'il y a deux, un petit peu, deux catégories de façon caricaturale. Alors, quand on regarde les artisans, les professions libérales, au mieux, peut-être qu'elles se sentent concernées, mais au mieux aussi, on a l'impression qu'il y en a beaucoup qui se disent finalement, c'est pas pour moi Internet, le salon de coiffure, pourquoi il irait sur Internet, voyez. Et puis alors de l'autre côté, on a les grosses entreprises dont on a l'impression qu'il y a une espèce de magie de l'outil, c'est-à-dire que ah bah ça y est, on va s'acheter un outil pour gérer la relation client et on pense que ça y est, le travail est fait.
Or, c'est ni l'un ni l'autre. Si on reprend l'exemple du salon de coiffure. Salon de coiffure va se dire, effectivement, mais comment je vais avoir une attractivité avec un site Internet? Pour autant, un salon de coiffure, et c'est très bien que ça va être utile, puisqu'ils vont acheter des services de couponing pour avoir une attractivité et faire rentrer du monde dans leur salon. Donc ils voient bien. Simplement, ils n'ont pas encore trouvé le moyen, parce qu'on ne leur a pas présenté des outils mutualisés qui leur permettent, effectivement, de faire une vraie visibilité sur Internet sans que ça leur coûte une fortune, et pour autant que ça ramène des clients. Et de l'autre côté, la grande entreprise qui, effectivement, on achète du CRM, aujourd'hui on est à la big data, on contrôle tout. On vérifie tout, et puis on peut sectoriser à peu près tout ce que les gens font sur Internet. Le CRM est aussi très utile pour comprendre votre parcours en tant que client. Pour autant,
CRM,
il faut
c'est les outils qui
permettent tous les outils de gestion de la relation client.
Gestion de la relation client.
Voilà. On utilise ça bien évidemment pour suivre en fait votre parcours, savoir ce que vous avez fait, où on en est, combien de fois on vous a démarché, etc.
Parce que plus que jamais le client est roi aussi aujourd'hui. C'est ça que vous soulignez aussi, et que les deux vont de pair finalement.
Oui, le client est roi, c'est surtout que le client aujourd'hui avec ces nouveaux moyens, il veut de l'immédiateté. Il veut de la réponse instantanée. On voit bien aujourd'hui que, j'invente rien en disant qu'avant on s'écrivait et puis on recevait le courrier et puis on se répondait. Maintenant il y a les textos, etc., etc. Dans la consommation c'est pareil, vous le soulignez tout à l'heure, on consomme, on veut avoir la réponse immédiate, on a une question, on veut la réponse immédiate. C'est l'immédiateté qui a amené aussi Internet. Donc aujourd'hui j'ai besoin d'un ostéopathe, j'ai besoin d'un jardinier, j'ai besoin d'un plombier, j'ai besoin d'une assistante maternelle, je me connecte sur Internet, je veux une réponse immédiate. Donc il y a cette immédiateté qui est demandée par le consommateur. Et ça, c'est important. C'est pour ça que le professionnel a besoin de répondre à cette immédiateté. Pourquoi? Parce que sinon, s'il répond 15 jours après, j'exagère, mais trop tardivement, il y aura toujours ceux qui répondront avant lui. Donc il y a besoin d'être très réactif, en fait.
Quand vous êtes face à des petits patrons, parce que dans votre livre aussi, il y a beaucoup de... Alors, il y a, vous faites partager votre expérience à vous, avec Denis Chalumeau, mais il y a aussi beaucoup d'autres exemples de petites entreprises. Quels sont les premiers arguments que vous utilisez pour convaincre les gens que soit ils n'utilisent pas Internet et qu'ils ont tort, ou soit qu'ils l'utilisent mal?
Alors, je leur dis, essayez. C'est le premier argument. Je leur dis, voilà, moi, avec se faire aider, on vous accompagne. Et je vous dis, vous voyez, j'étais en rendez-vous ce matin avec un plombier, à Paris. Enfin, il est à Maison Alfort, pour être exact. Il s'est mis à son compte, et il utilise la plateforme seferaider.com, justement pour avoir son acquisition client. Il me dit, aujourd'hui, 80% de ma clientèle vient par là. Parce que notre travail, c'est d'apporter justement un outil mutualisé, parce que seul, c'est compliqué. Donc, comme le disait tout à l'heure ma camarade à côté, effectivement, c'est un groupement de travail où on est quand même indépendant, mais on utilise des outils qui sont mutualisés pour cette attractivité-là. Donc je leur dis, essayez, et vous allez voir que ça fonctionne, et on les forme aussi, on leur donne des formations pour leur expliquer comment ça marche, encore une fois, pour dédiaboliser l'usage de l'Internet à des fins professionnelles, pour leur montrer que c'est pas une faune inextricable et qu'on peut s'en sortir de cette faune-là qui est le web avec des milliards de sites qui existent, et on peut vraiment l'utiliser avec des fins héroïstes très percutantes.
Alors, ok, notre entrepreneur, il veut utiliser Internet. Quelles sont les erreurs qui sont les plus fréquemment commises? J'ai envie de dire, quels sont les pièges dans lesquels, quand on commence à utiliser Internet, quand on est un petit patron, quels sont les pièges dans lesquels on tombe le plus souvent?
Je pense que c'est acheter des prestations qui sont pas adaptées. Acheter un site internet sans référencement, c'est acheter une voiture sans volant. Ça sert à rien. On peut pas l'utiliser, c'est un véhicule qui roulera pas.
Sans référencement, c'est-à-dire?
Le référencement, c'est votre référencement sur les moteurs de recherche.
Ouais. Parce que c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire si vous arrivez sur la 12e page...
Ça sert strictement à rien. Donc, voilà. Ça, c'est faire des tests. Aujourd'hui, on peut utiliser les réseaux sociaux, on peut l'utiliser finement, on peut aller choisir sa cible géographique au niveau des personnes, des hommes, des femmes, de tel âge, de telle catégorie socio-professionnelle. On peut faire des tests, donc c'est de tester. Ne pas faire de grandes campagnes non plus tout de suite sans tester. Il faut tester tous ces leviers. Et ça, c'est très important. C'est de soigner son image. Je disais, c'est un média. C'est pas un monde à part, Internet, c'est un média. Il faut soigner son image, c'est une vitrine que nous faisons, et cette vitrine, il faut savoir justement la faire belle. Il faut donner envie aux internautes de nous contacter, de rentrer dans cette vitrine-là. Qu'on soit dans le service ou dans l'e-commerce, c'est pareil.
Sauf que derrière la vitrine, il y a la boutique.
Il y a la boutique.
Et dans la boutique, il faut que ça suive.
Exactement.
Et là, vous vous retrouvez quand même, parce que dans les PME, TPE, bon, vous avez 5, 10, 15 personnes. Le problème, c'est que derrière, il faut que les habitudes de travail changent aussi.
Oui, voire même une personne. Donc les habitudes de travail, bien sûr, qu'elles changent. Mais encore une fois, c'est un média. C'est pas parce que je vais être sur Internet aujourd'hui, j'ai une PME que je vais avoir un travail qui va quadrupler, quintupler. On n'est pas forcément dans l'hypercroissance, mais on est en attendant dans au moins à minima dans le maintien d'un flux de croissance habituelle, hein, qui est nécessaire à la survie et à la pérennité de l'entreprise. Donc l'habitude, elle vient surtout à utiliser les outils. Il n'y a pas forcément de grands changements structurels, mais c'est surtout pour utiliser l'outil. Ça passe par de la formation. C'est assez simple aujourd'hui, les outils sont très faciles à utiliser.
Alors pour reprendre ma question autrement, est-ce que les entreprises ne cèdent pas aussi à un mirage? Est-ce qu'ils n'attendent pas trop non plus d'Internet?
Oui, j'aime bien votre question, c'est ce que je dis souvent aux professionnels avec lesquels nous travaillons. Je leur dis, vous savez, je ne fais pas tout. Avec se faire aider, c'est pas parce que vous considérez que vous allez avoir une prestation que, je disais ça l'autre coup à un jardinier. J'ai dit, vous savez, je vais pas aller tondre la pelouse et puis à la fin du mois, vous envoyez le chèque. On est d'accord. Donc, il faut aussi que vous fassiez votre boulot. Donc, je leur dis, nous, notre boulot, c'est d'aller chercher les clients sur le net et de vous les apporter. C'est le travail qu'on fait. Mais vous avez besoin effectivement de faire que la vitrine soit belle, que la boutique marche bien et que vous soyez compétent, que vous répondiez en disant bonjour à la dame qui vous appelle, vous répondiez rapidement aux demandes de devis qu'on vous fait et que vous fassiez votre travail correctement. Et ça, c'est votre partie du travail. Donc, il n'y a pas de miracle. Encore une fois, on change de média, on vous apporte ça et on vous apporte cette aide pour que ça fonctionne bien.
Alors, en même temps, ces nouvelles organisations, ces nouveaux marchés, tout ça va créer des nouveaux emplois. Et c'est là qu'on en arrive au livre d'Anne-Caroline Pocot. Alors, votre livre, franchement, ça a été un choc parce que, bon, c'est titré un peu comme un rapport du commissariat au plan. On se dit, on va nous parler des emplois de service à la personne, etc. Et alors, en fait, quand on regarde de près, on est stupéfait, en fait, par... c'est vraiment une démarche assez originale. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez d'abord votre démarche. En gros, vous vous êtes dit, vraiment, pour essayer de trouver ce que vont être les emplois demain... Comment on fait? C'est-à-dire, on essaye de définir déjà des profils de poste?
Pas du tout. Ça, c'est à l'ancienne. Pas du tout.
Ah, je suis trop old school.
Ah oui, à l'ancienne, on définissait des profils de poste. Je pense que déjà, il y a une notion, c'est-à-dire qu'en fait, il y a à peu près 65% des métiers vont exercer les enfants, les collégiens
absolument
aujourd'hui, n'existent pas encore. En résumé, demander à son jeune, qu'est-ce que tu vas faire demain, c'est la question la plus ridicule.
Oui, sauf que les gens qui ont fait ces études, ils sont en même temps incapables de vous dire ce que ce seront ces emplois demain.
Ben justement, il faut donc retravailler autrement. Alors la seule façon de pouvoir réfléchir au métier de demain, c'est de considérer que toutes les innovations existantes aujourd'hui sont en train de préfigurer le futur. C'est un peu comme un tableau pointilliste. Mmh. C'est-à-dire, vous voyez toutes les innovations, vous avez une image un peu floue, selon que vous la regardez à droite, à gauche, elle est un petit peu différente. Donc le principe, c'est, on part de toutes les innovations en disant, tiens, par exemple, là il y a pas mal d'innovations. Ben, je donne un petit exemple. Par exemple, dans le domaine journalistique, on voit beaucoup l'arrivée des drones.
Oui.
On se dit, tiens, il y a beaucoup de drones là, un peu partout.
Le dronaliste.
On pourrait, voilà, imaginer que demain, vous soyez dronaliste.
Alors, ça m'amène à la deuxième étape. Hein,
Alors, dronaliste, c'est un journaliste, bien évidemment, qui utilise un drone.
Exactement. Et justement, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que la deuxième étape, c'est qu'il faut nommer ces nouveaux emplois. Et là, vous êtes livré à un exercice d'imagination absolument...
C'est normal, puisque quand on invente le futur, la meilleure compagnie de transport du monde, c'est l'imagination. C'est celle qui permet d'aller plus loin. En plus de ça, elle est désirable, recyclable, très comme 21, l'imagination. Donc, c'est normal qu'on l'utilise. En plus de ça, l'intérêt, effectivement, de nommer les choses, c'est que c'est une activité que tout le monde peut faire. Tout le monde peut inventer des mots. Donc, on peut le faire ensemble.
Alors, oui, et d'ailleurs, c'est un point sur lequel on reviendra, c'est que c'est un livre, et donc, comme tous les livres, ça paraît un peu figé, sauf que c'est un work in progress, en fait. Hein. Vous incitez les gens à faire des nouvelles propositions, vous ferez une réédition bientôt, sans doute, parce que j'imagine que vous avez déjà d'autres nouvelles idées.
Ben oui. Dans des ateliers, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, on travaille ensemble. On se dit, tiens, comment on pourrait nommer,
Alors on va y venir justement. Donc vous avez fait un peu cette grande famille hein, d'emplois, cette catégorie un peu.
Alors c'est de façon évidente pour rebondir ce que disait.
Le digital.
Oui, c'est le numérique. C'est-à-dire tous les métiers sont revisités par le numérique.
Avec une ligne de force qui est quand même la donnée, c'est-à-dire l'omniprésence
et la surabondance des données. Déjà le numérique, c'est-à-dire revisiter les métiers. Par exemple, les agriculteurs utilisent aujourd'hui énormément de données. On peut imaginer que demain, ce sera des agriculteurs.
Oui, ça commence déjà.
Oui.
Là, on est presque déjà dans aujourd'hui.
Par exemple,
avec l'agriculteur.
Les responsables des pompes funèbres qui vont s'occuper aussi de l'enterrement des vies virtuelles, on peut peut-être imaginer qu'ils s'appellent des funèbres.
L'enterrement des vies virtuelles.
Ben oui, c'est-à-dire à un moment donné, quand on disparaît, on a aussi une vie virtuelle. Il faut peut-être l'enterrer, la faire disparaître.
C'est-à-dire toutes les traces qu'on laisse.
Oui.
Le jour où on meurt, mais tout ce qu'on laisse sur Facebook, sur Twitter, tout ça.
C'est important.
Il faut aussi le.
Oui. Il y a peut-être une gestion aussi. Quelque chose, c'est un nouveau métier qui est en train d'apparaître, qui apparaît beaucoup. Hein, c'est-à-dire, les grands réseaux sociaux s'en occupent énormément.
Ouais. Alors, sur les métiers liés au digital, par exemple, alors on prend quelques exemples, hein, on pioche comme ça. L'appli coach, c'est celui qui va vous conseiller pour faire votre choix dans centaines de milliers d'applications qui existent.
C'est-à-dire qu'il va regarder, tiens, qu'est-ce que vous aimez? Ah ben, vous aimez un peu la télévision, vous aimez, les robots, les livres et tout. Et il va vous donner les 10 applications qui sont les bonnes.
Le clapotiste.
Ah, le clapotis, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un monde de surinformation.
Ouais.
À un moment donné, il faut peut-être un petit peu redescendre un petit peu et pouvoir amoindrir un peu ce bruit informationnel, cette pollution informationnelle. Donc peut-être faire des choses qui... c'est-à-dire il y a des choses, par exemple, qui sont en train de se faire. On voit au Japon, il y a une librairie qui vend un livre par semaine. On voit aussi...
on ralentit le rythme.
On ralentit.
Je veux juste préciser quand même qu'à chaque fois que vous décrivez un métier, vous avez toute une page qui explique, ça s'appelle « C'est déjà demain », et qui explique les exemples qui sont déjà réels aujourd'hui.
Toutes les innovations
et qui préfigurent de ces nouveaux métiers. Le dépucièreur.
On est envahi de petites puces.
Ouais.
Donc, à un moment donné, par exemple, dans les arbres, dans la ville, pour pouvoir calculer le niveau de l'eau, tout, ces puces, elles sont partout. À un moment donné, il faudra bien faire un petit ménage. Donc, logique, un dépoussiéreur, un technicien de surface qui enlève toutes ces puces qui prolifèrent à droite et à gauche.
Alors, les métiers liés à la santé. Là, l'idée, c'est quand même qu'on va aller vers la prévention, vers le sur-mesure. Vous dites, on passe d'une science réparatrice à une science augmentatrice. Le bibliothérapeute, par exemple, que fait-il ?
C'est peut-être un métier à l'ancienne qui est d'utiliser le livre pour pouvoir soigner et avoir des thérapies.
Je connais pas beaucoup de gens qui se font soigner par les livres.
Je pense qu'il y a tout un courant d'exploration de nouvelles médecines, de nouvelles formes de pensée et la littérature. Alors ça, par exemple, c'est extrêmement développé en Angleterre. On a de temps en temps effectivement des boîtes à livres qui peut-être ont un rôle aussi apaisant.
Parlez-moi du nomophobe, et je dis bien nomophobe, N-O-M-O-P-H-O-B, qui soigne la nomophobie. Qu'est-ce que la nomophobie ?
C'est la peur d'être déconnecté, la nomophobie. C'est la peur que son téléphone...
C'est la peur d'être séparé de son portable,
Séparé de son portable. Il y a un moment donné où c'est tellement... C'est-à-dire, il ne vivre pas, il n'est pas dans la poche, il est hors circuit, il n'y a plus de Wi-Fi et tout. À un moment donné, ça devient compulsif. Donc, il faut peut-être soigner
Il faut soigner.
Et il faut aussi peut-être même des numéropathes qui vont soigner aussi la zombicuité.
Vous m'avez perdu. La zombicuité.
La zombicuité, c'est un phénomène qu'on observe beaucoup chez nos adolescents, qui est la possibilité d'échanger avec quelqu'un qui est loin, à distance, donc sa clique lointaine, et dans la difficulté, effectivement, à échanger avec des personnes qui sont proches. Par exemple, un repas de famille où il y a le téléphone là, et puis quand on parle à notre adolescent...
On connaît tout ça.
Et donc, c'est un peu un phénomène de zombicuité où tout le monde, on va au restaurant, où tout d'un coup, on ne peut pas parler à la personne en face, on peut parler uniquement à quelqu'un qui est loin.
D'accord. Le psygérotechniste.
Alors là, je pense qu'il y a aujourd'hui une obligation de pouvoir effectivement mettre les anciens aux technologies. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est en train de...
La fracture numérique liée à l'âge, en fait.
Mais qui est en train de se minimiser, c'est-à-dire avec les tablettes, entre autres. C'est-à-dire, c'est quelque chose où quand on met les tablettes dans les mains de petits ou la main des anciens, ils fonctionnent très naturellement, parce qu'on peut pas faire d'erreur. On peut cliquer et tout. Par contre, il faut peut-être les aider. Et peut-être aussi pas utiliser cette technologie uniquement, c'est-à-dire savoir comment elle peut créer du lien. C'est surtout ça qui est important.
Alors,
le côté psycho.
Vous avez une rubrique ensuite consacrée au métier de l'alimentation et de l'agriculture. Et là, ce qui est intéressant dans la petite page du début, c'est que vous donnez les tendances. Là, vous dites, l'agriculteur devient agriculteur, vous l'avez dit, et les fermes reviennent en ville.
Oui.
Et alors là, par exemple, alors c'est quoi un bouchétarien ?
Le bouchétarien, c'est, je pense que demain, très concrètement, on sera tous végétariens. C'est plus que possible par rapport à la planète.
Sauf quand on mangera des criquets, parce que vous avez aussi les métiers d'élevage de protéines.
Oui, on peut être entomésinier, c'est-à-dire le cuisinier des insectes.
Voilà.
Bon, et bouchétarien, c'est quelque chose qui existe déjà aux Pays-Bas, c'est-à-dire c'est de la viande végétarienne. C'est assez étonnant. C'est en train d'apparaître. En France, il y a deux vendeurs. J'ai pas goûté, donc je peux pas du tout vous dire si c'est bon ou pas. Mais pourquoi pas? C'est en tout cas.
L'urbaculteur, ce sera l'agriculteur des villes?
Ce sera l'agriculteur des villes, de façon...
Parce que les fermes seront en ville.
Oui, elles seront sans doute, on aura peut-être sur le toit, c'est-à-dire je pense qu'on aura besoin de toitaginiers pour pouvoir travailler sur les toits.
Des toitaginiers.
Oui, c'est-à-dire les jardiniers des toits. C'est-à-dire qu'on aura peut-être, je pense, demain, des potagers un peu sur toutes les surfaces d'immeubles de Paris. Peut-être.
Alors justement, la rubrique suivante, elle est liée à l'environnement. Et c'est un peu tout ce qui va tourner autour de cette réconciliation. On a l'impression, avec la planète avec laquelle on s'est quand même un peu fâché. Donc, vous avez par exemple une filière prometteuse, aspironauticien.
Oui. Alors ça, c'est pour l'instant, on est en train de mettre des déchets sur la planète et on essaye de
énormément.
Les recycler. Mais par
dans
contre,
l'espace.
On en met dans l'espace.
C'est un vrai sujet.
Énormément. Et donc là, on est bientôt limite à dire, là, ça va clasher dans tous les sens.
Ouais.
Il faut aller les récupérer. Alors la question commence à se poser, hein, réellement. Et ça va s'accélérer.
Oui, parce qu'il n'y a plus de place pour tous les satellites aujourd'hui, quasiment.
Oui, pour
il va falloir
les déchets.
Organiser ça.
Ouais.
L'urbaniste.
Ben, c'est l'urbanisme qui va spécialiser dans l'engloutissement des villes. C'est-à-dire, concrètement, à New York, il y a pratiquement 7% de la surface qui va être engloutie. Donc, on est en train de travailler sur des espaces flottants.
L'énergo-homme.
Ben, c'est la récupération de l'énergie humaine.
Ouais, d'accord. Alors, et après, il y a des nouvelles activités. Le companoboat, par exemple, il fait quoi, lui ?
Eh ben, il s'occupe des robots d'accompagnement des personnes en difficulté.
D'accord. Allez, on termine avec le légisbotaire.
Eh ben, s'il y a un droit des robots. Demain, il y aura de façon évidente un droit des robots.
Eh ben, écoutez, c'est vraiment un sacré voyage que vous nous avez proposé. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci, Emmanuel.
Eh ben, écoutez, on va suivre ça. Donc, retour dans une prochaine édition, hein, pour voilà, quand on complétera la collection. Et puis, voilà, j'espère qu'on sera utile à tous ceux qui veulent utiliser Internet et prospérer, et surtout se développer et développer leur entreprise grâce à Internet. On se retrouve tout de suite avec nos critiques pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de l'émission avec nos critiques attitrées. Vous les connaissez bien, à ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternatives Économiques et Alter Eco Plus. À ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP Europe, le critique attitré de la Société d'économie politique et le directeur de la revue sociétale. Alors, messieurs, on commence cette semaine avec le choix de Jean-Marc. Et j'ai envie de dire, celui qui a franchi la ligne d'arrivée le premier, c'est-à-dire celui qui a réussi à écrire le premier livre sur Emmanuel Macron. Il s'appelle Marc Andevel, il est journaliste à Marianne et ça s'appelle L'ambigu Monsieur Macron, c'est publié chez Flammarion.
Exactement, oui. Alors c'est la première, non pas biographie d'ailleurs, l'éditeur Flammarion a une collection qui est consacrée à des biographies et là il s'agit d'une enquête autour de Emmanuel Macron. Il faut dire qu'Emmanuel Macron va avoir 38 ans au mois de décembre.
On peut d'ores et déjà dire qu'il y a d'autres livres en préparation sur Emmanuel Macron.
Prépare, donc c'est une forme de reconnaissance pour Emmanuel Macron. J'ai envie de dire que sur le plan économique, on nous dit que si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a échoué. Là, on a l'impression que sur le plan politique, si à 40 ans on n'a pas sa biographie, on a pris du retard. Et donc lui, il n'a pas pris du retard. Et alors la biographie, qui n'est pas encore une fois une vraie biographie, qui est une enquête, je dirais il y a deux bémols que je mettrais sur la qualité de ce livre au tout début. C'est d'abord plutôt un livre d'enquête, effectivement. Donc ses sources, c'est avant tout des entretiens avec des gens qui n'aiment pas forcément Emmanuel Macron. Et donc il leur donne un peu la part belle. C'est-à-dire lui-même est assez réservé sur la personnalité d'Emmanuel Macron.
En même temps, si c'est pour faire un livre qui va dire
oui,
que du bien d'Emmanuel Macron.
Il n'a pas besoin de faire une hagiographie, il aurait pu vérifier certaines de ses assertions. Le deuxième élément, c'est que vers la fin du livre, dans la partie où il est devenu ministre, il y a beaucoup de digressions, on s'éloigne beaucoup, quelquefois ses commentaires, je les trouve même un peu déplacés, on s'éloigne. Il y a des remarques, par exemple, il fait Sciences Po, et entre parenthèses, ici, il marque une école contre-révolutionnaire. Alors, je ne sais pas ce que ça signifie, mais... Alors après, si on vient au cœur quand même du livre qui me paraît assez intéressant et qui mérite d'être lu, c'est que c'est le portrait non pas d'Emmanuel Macron en tant que tel, mais c'est le portrait même pas d'un arriviste, c'est plutôt le portrait d'un séducteur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'ailleurs dans le livre, il fait dire à Emmanuel Macron, finalement être banquier, quand il explique pourquoi il est allé chez Rothschild, c'est pas très compliqué, c'est un peu comme une prostituée, il suffit de séduire. Et le mot séduire apparaît à plusieurs reprises dans le livre. Tous les gens qu'on interroge sur Emmanuel Macron disent, oui, c'est un vrai séducteur. Il a une capacité à embobiner les gens, à les flatter. Il dit jamais non. Il est toujours... Il y a d'ailleurs un de ses condisciples au lycée Henri IV qui explique que, contrairement à la légende, il n'a pas été reçu à l'école normale supérieure. Il s'est présenté deux fois. Mais il y a une telle légende que, dans le livre aussi, Alain Gérard Slama a dit, finalement, il est normalien d'honneur. Il aurait mérité d'être normalien. Il est tellement brillant que finalement, il aurait... Et donc, son condisciple dit, en fait, il n'a pas eu de chance parce qu'il n'était pas très loin de la barre d'admissibilité. Il aurait réussi à atteindre l'oral. Là, il était sûr d'être élu, d'être reçu. Parce qu'il a une capacité de bluff, une capacité à embobiner les gens, à fasciner les gens. Et donc, ce personnage est un personnage intéressant parce que je pense qu'effectivement, c'est une nouvelle types d'hommes politiques. Ces hommes politiques correspondent à la société des médias qui ont une capacité à séduire. Je crois que c'est le maître mot du livre.
Christian.
Alors, en même temps, l'auteur a choisi comme titre pas le séducteur M. Macron, mais l'ambigu M. Macron. Et donc, ce qui ressort surtout du livre, c'est que c'est un personnage ambigu. Alors moi, le petit bémol que j'aurais sur le livre, c'est que il faut comprendre par soi-même pourquoi il est ambigu. Sur quoi porte exactement l'ambiguïté de Macron? En quoi est-ce qu'Emmanuel Macron est quelqu'un d'ambigu? Alors, il y a une ambiguïté sur le CV. Jean-Marc l'a rappelé, c'est qu'il n'est pas normalien. Mais bon, ça, c'est pas très très grave. Plus fondamentalement, il y a une ambiguïté qui est l'ambiguïté du positionnement intellectuel d'Emmanuel Macron. Et bon, faut fouiller dans les pages, et là, on trouve deux arguments un peu contradictoires. Un, il nous dit, il n'est pas charpenté intellectuellement. Hein, c'est quelqu'un qui a un touche-à-tout, c'est un dilettante, ça revient plusieurs fois, touche-à-tout. Hein, il a été proche de Jean-Pierre Chevènement, puis de Laurent Fabius, puis de Michel Rocard, puis de François Hollande, et si demain il est proche d'Alain Juppé, ça surprendra personne. Donc on voit que c'est vraiment quelqu'un qui va dans tous les sens, et quelqu'un a même dit, une des personnes qui n'aime pas Emmanuel Macron, dit, en fait, vous savez, Emmanuel Macron, c'est pas Emmanuel Macron, son nom, c'est Emmanuel Macaron, parce qu'il est sucré à l'extérieur, mais il est mou à l'intérieur. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment charpenté intellectuellement. Et en même temps, page après page, on nous dit qu'à chaque fois qu'il a pris des décisions, c'était des décisions sociales libérales. Il faut casser le droit du travail, il faut libéraliser, il faut, comme disait le regretté Bernard Maris, que les salariés financent les capitalistes avec le développement des fonds de pension, etc., etc. Donc d'un côté, il n'est pas vraiment charpenté intellectuellement, il est un peu hâbleur, séducteur, il touche à tout, c'est un rhéteur, hein, plutôt qu'autre chose, plutôt qu'un intellectuel. Mais en même temps, à chaque fois qu'il prend des décisions, on voit bien qu'elles sont appuyées sur une représentation du monde qui est assez claire. Les deux seules petites choses qui sortent un peu positivement à la fin du livre, me semble-t-il, c'est que Emmanuel Macron nous dit la politique, c'est avoir un discours pour donner un cap, prendre des mesures techniques et s'apercevoir ce que ça fait dans la vie des gens. Et le discours politique reste uniquement, l'action politique reste au niveau de la technique. Non, il faut aussi les deux autres qui manquent. Et enfin, Macron nous dit, moi j'ai pas peur des idéologies. Idéologie au sens de représentation du monde, mélange d'idées pour se faire une représentation du monde face à laquelle on teste, hein, en vieillissant face aux évolutions du monde, et on est prêt à en changer. Et lui, il nous dit, moi je suis un idéologue, hein, quelque part, mais quelqu'un qui veut bien se bâtir un grand récit du monde. Malheureusement, de mon point de vue, ce récit du monde, il est fondé sur l'efficacité de l'autonomie individuelle plutôt qu'une réflexion sur le collectif.
Par rapport à l'idée de modernité du personnage, on a l'impression qu'il est à la fois très moderne, mais quand j'entends Christian dire ça, on a l'impression que ça nous renvoie aux générations d'hommes politiques d'il y a 50 ans, finalement.
Oui, non, ce que je trouve intéressant, effectivement, justement, par rapport à ce que vient de dire Christian,
c'est cérébré, quoi.
Il adhère à une idéologie qui est une idéologie sociale libérale, et l'auteur dit, en fait, quand il cite à un moment donné des extraits d'un livre qui a été écrit par Hollande dans les années 80, sous le pseudonyme de Jean-François Trans, et notamment, Hollande dit la concurrence est de gauche. Et il dit, maintenant, Macron dit le libéralisme est de gauche. En fait, ce discours est un discours qui est représentatif d'une certaine forme de pensée au sein du Parti Socialiste. Il est le droit traditionnel du Parti Socialiste. Ce que dit bien l'auteur, c'est que Macron, il incarne ça avec une certaine forme de succès. D'abord parce que les temps ont changé et qu'il est probable que la population est plus disposée à écouter ce genre de discours. Et que deuxièmement, de temps en temps, ce séducteur qui dit jamais non est capable de faire preuve d'une certaine forme d'autorité. Dans le débat au Parlement sur la loi Macron, il a été extrêmement brillant. Il a été capable, il a été présent. Il a été très exigeant à l'égard de ses services. Il y a des passages dans ses rapports avec les grands patrons. Alors, l'affaire avec Renault, c'est pas terminé, on sait pas comment. Mais sur EDF, sur la... à un moment donné, quand même, la rencontre avec Proglio qui va...
C'est un chapitre magnifique, hein, vraiment un chapitre magnifique. Il y a encore toujours dans l'ambiguïté, Jean-Marc, oui. dans l'ambiguïté d'Emmanuel Macron, quand il était à l'Élysée, c'était la porte ouverte du MEDEF et de la FEP auprès de François Hollande. Et en même temps, il est prêt à se taper des patrons. Le chapitre qui raconte comment son opposition avec Henri Proglio et comment il va le virer d'EDF, de Thalès, c'est vraiment remarquable. On ne le décroche pas, c'est un vrai petit roman.
Oui, mais c'est peut-être ce capitalisme de connivence qu'il n'aime pas
oui,
aussi.
Oui, il est en train effectivement d'incarner le refus à la fois de ce capitalisme de connivence qui était la politique industrielle des années Pompidou, le retour, les nationalisations et tout ça, et des idées qui étaient déjà dans l'air au sein du Parti Socialiste qui ressemblent à peu près à ce que disait déjà Delors dans les années 80, des idées qui ont été récupérées ensuite d'une certaine façon par François Hollande et qui maintenant sont en train de s'imposer. Son véritable problème, ce sera que Valls est sur le même créneau que lui, et donc il va falloir qu'il y en ait un des deux qui détruise l'autre.
Alors, dans cette semaine toujours très marquée par la COP21 qui s'approche, Christian, vous avez choisi un livre, Transition énergétique, Comment fait l'Allemagne, par Vincent Boulanger, aux éditions qu'on aime bien, les éditions des Petits Matins. C'est vrai qu'il y a une espèce de pas de culte, encore une fois, mais de modèle allemand de transition énergétique.
D'anti-modèle allemand, parce qu'en fait, ce que nous dit l'auteur, c'est que la sortie du nucléaire de l'Allemagne pose certains problèmes qui sont débattus en France, mais qui ne sont pas les vrais problèmes, alors qu'elle pose des vrais problèmes, mais qui ne sont pas débattus en France. Donc les faux problèmes, c'est quoi? On nous dit, par exemple, l'Allemagne, bah oui, elle a baissé son nucléaire, mais elle a augmenté la production de charbon, bah oui. Donc ça ne marche pas. Pas du tout. L'Allemagne a augmenté sa production d'électricité renouvelable, bien plus qu'elle n'a perdu en arrêtant des centrales nucléaires. Donc la production de charbon est tout à fait, l'augmentation de la production de charbon est tout à fait conjoncturelle, et l'auteur nous le démontre dans un chapitre de manière extrêmement claire. Ça va bientôt s'arrêter, et c'est la fin du charbon en Allemagne aussi. Il n'y a pas un remplacement du nucléaire par charbon.
Et ils vont remplacer par quoi le charbon ?
L'énergie renouvelable, dont la part monte extrêmement fortement, et est aujourd'hui la première source d'électricité en Allemagne. Autre problème, on nous dit, ah oui, mais l'Allemagne arrête le nucléaire chez elle, mais elle importe du nucléaire français. Pas du tout, encore une fois, nous dit l'auteur. J'ai regardé, la consommation en Allemagne est tellement plus forte que quand il y a des pics de consommation, c'est l'Allemagne qui vend à la France plutôt que la France qui vend à l'Allemagne. Donc, il remet en cause toutes ces idées reçues. Là, par contre, il nous dit, par contre, il y a des vrais problèmes en Allemagne dans cette transition énergétique. C'est par exemple, qui doit payer ? Hein, on nous dit, bah oui, mais l'Allemagne, elle augmente beaucoup le coût pour les consommateurs. En France, ce ne serait pas possible. Et quand il regarde les chiffres, il dit, oui, c'est vrai. Le coût du kilowattheure d'électricité pour le ménage allemand, c'est le double que pour le ménage français. Sauf que, c'est un choix du gouvernement allemand de faire payer plus cher aux ménages parce qu'ils veulent réduire la consommation d'électricité, parce qu'ils ont décidé de faire payer plutôt les ménages que les grandes entreprises.
Oui, qui payent moins cher que les entreprises françaises.
Qui payent moins cher que les entreprises françaises. Mais aussi, c'est parce que il faut faire attention à ce que les ménages consomment beaucoup moins d'électricité. Et de fait, quand vous regardez la part des dépenses d'énergie dans un budget français, 4,2%, dans un ménage allemand, 4,8%, c'est pas beaucoup plus cher. Par contre, il y a encore un vrai problème à régler, c'est qui va payer pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des déchets, 50 milliards à minima. Ça, c'est un problème qui est pas réglé. Et puis, quand vous appuyez de plus en plus, comme le fait l'Allemagne, sur l'éolien et sur le solaire, vous n'avez pas du vent et du soleil partout. Donc, vous produisez l'électricité d'un côté, il faut l'amener de l'autre côté. Ça veut dire soit des pylônes, et là, il y a des landers qui refusent, des populations qui refusent, soit vous l'enfouissez dans le sol, mais à ce moment-là, vous pouvez traverser des zones naturelles et vous faites du terrassement sur des zones naturelles. Donc, il y a des vrais problèmes que pose cette transition énergétique, mais ce n'est pas ceux qu'il y a dans le débat français. Et globalement, à la fin, l'auteur nous dit qu'ils sont plutôt en train de réussir et de prendre de l'avance sur cette transition énergétique, cette sortie du nucléaire.
Jean-Marc Daniel.
Oui, moi ce que j'ai trouvé intéressant effectivement dans le livre, c'est le fait qu'ils disent c'est pas exactement ce qu'on nous raconte qui se passe. Encore que la partie sur le charbon, je suis resté un peu sur ma faim, c'est quand même un grand producteur de charbon, l'Allemagne, il y a encore 180 millions de tonnes de charbon qui sont produites tous les ans.
Mais politiquement c'est clair maintenant, on va en sortir.
Et alors effectivement, et alors on aborde il y a beaucoup d'effets d'annonce. Ils disent voilà, ils ont annoncé ça, ils vont faire ça, en 2030 on en sera là, en 2050 on en sera là. Bon, c'est des annonces, je veux pas faire des sarcasmes sur ce qu'a annoncé Volkswagen et ce qu'a fait Volkswagen. En fait, il y a quand même beaucoup d'annonces et beaucoup d'intentions affichées, pas forcément d'éléments très concrets dans ce qui se passe en ce moment, notamment sur le charbon, effectivement, comme l'a dit Christian, sur le fait que l'énergie renouvelable, elle est produite à des endroits et à des moments où on n'en a pas forcément besoin. Donc, il y a un problème d'acheminement, il y a un problème de stockage. Il montre bien que les Allemands se posent la question, qu'ils essaient d'être constructifs, qu'ils ont identifié un certain nombre de problèmes. Là où je suis moins convaincu, c'est sur le fait qu'ils vont effectivement apporter toutes les réponses à ces problèmes-là. Ils sont engagés dans une situation, ils ont fait beaucoup d'annonces, ils ont identifié les problèmes. Là où le livre, à mon avis, a une certaine faiblesse, je rejoins un peu ce que disait la semaine dernière, ou dans une émission précédente, Jean-Marc Jancovici, c'est quand même beaucoup d'espoir et pas beaucoup de réponses véritablement concrètes à cette défi qui consiste à dire on ne veut ni du charbon ni du nucléaire. Et donc, il y a quand même beaucoup dans le livre, ça se passera en 2050, ça se passera en 2030, il faut espérer.
Avec la démonstration quand même qui est toujours intéressante et qui est toujours bonne à rappeler, c'est que quand même le signal prix le comportement. Ça joue.
La partie sur le signal prix, effectivement. Oui. Et l'engagement politique de l'État qui est maintenant extrêmement ferme, et les grandes multinationales d'électricité en Allemagne savent qu'il faut passer à autre chose.
Non, mais c'est clair que le prix, c'est essentiel à l'économie. Ça, pour moi, ça a été du petit.
Il y a des vérités qui sont toujours bonnes à rappeler, parfois, mon cher Jean-Marc. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de l'émission.
BFM Business. La librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la dernière partie de l'émission. Nos critiques sont toujours là et c'est l'heure de retrouver nos chroniqueurs. Alors d'habitude, c'est nos chroniqueurs, mais aujourd'hui, c'est un chroniqueur. Et quel chroniqueur ? Le professeur d'économie Gilles Raveau, professeur à Paris 8. Merci Gilles de nous avoir rejoints. Alors Benaouda Abdedaïm est en Russie, Stéphanie Collo n'est pas là non plus. Et donc vous allez nous faire à la fois le livre d'avant et le livre d'ailleurs. Et donc on démarre tout de suite pour savoir quel livre avez-vous choisi de nous sortir de la bibliothèque.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'avant.
Alors, Gilles, comme livre d'avant, un auteur extrêmement connu, mais une de ses œuvres qui l'est peut-être un peu moins.
Oui, un auteur extrêmement connu, John Maynard Keynes, né en lui-même, himself, né en 1883 et mort en 1946. Le grand économiste britannique qui a donné évidemment la naissance au courant keynésien nommé après lui, mais dont on ne doit pas oublier qu'il était membre du Parti libéral, qu'il n'a jamais été au Labour Party, et que donc c'était avant tout un libéral au sens plein du terme.
Vous voulez dire qu'il n'était pas de gauche ?
En tout cas, ce qu'il voulait, c'est
Je sens que j'ouvre un débat terrible.
Voilà, là, c'est vrai que ça va un peu manquer de temps en trois minutes, mais l'idée, c'était plus de sauver le capitalisme de lui-même que d'abattre le capitalisme. Et d'accord. Il avait assez peu d'appétence pour le socialisme, en tout cas, ça c'est sûr, il l'a dit à plusieurs reprises.
D'accord. Et donc, vous avez choisi aujourd'hui...
Perspective. Alors, donc, ce que j'ai choisi, c'est un article, en fait, qui est assez court.
Ouais.
Et qu'on trouve dans cet ouvrage. Donc, cet ouvrage, La pauvreté dans l'abondance, qui est une collection d'articles.
D'accord.
Et l'article lui-même, c'est Perspective économique pour nos petits-enfants, écrit en 1930, donc il y a bientôt un siècle, dans lequel Keynes anticipe la situation économique, donc, de 2030. Et il pense que ça sera une situation économique d'abondance.
Et il dit vraiment, il se projette vraiment en 2030?
Il se projette exactement. Il dit précisément le niveau de vie aura été multiplié entre 4 et 8 fois par rapport à 1930, grâce à la magie des intérêts composés, le fait que le capital fasse des petits qui font des petits à leur tour, etc. Et on aura ainsi résolu le problème économique et se posera alors une question terrifiante pour les êtres humains. Que faire de notre temps libre? Comment nous occuper alors que, dit-il, nous avons été tellement entraînés à travailler et non pas à profiter de la vie?
Ah, c'est génial, parce que là, avec tout ce qui nous attend, tous les robots qui vont nous remplacer, puisqu'on nous dit... Alors, là, on a vu les métiers de demain tout à l'heure avec nos invités, mais quand on nous dit les robots vont remplacer la moitié des métiers qui existent et qu'on se demande ce qu'on va faire, donc Keynes répond déjà.
Keynes anticipe une situation où on travaillerait 3 heures par jour, mais il nous dit, mais il nous dit quand même... Il va falloir prendre du temps, il va falloir que l'usure, l'avarice, l'épargne soient encore nos divinités pendant un petit siècle avant d'arriver à cette situation d'abondance. Et il pense que quand même les choses vont se faire progressivement, que de plus en plus de gens vont connaître une situation où ils auront un temps libre important dans leur vie et que donc progressivement la société va évoluer et qu'on sera capable de maîtriser ce nouveau temps libre. À l'inverse, il nous donne des exemples assez rigolos des femmes de la bourgeoisie qui sont oisives et qui ne savent pas quoi faire de leur journée.
C'est le summum de la sagesse, en fait, cette société à laquelle nous allons parvenir.
Alors évidemment, c'est l'apothéose, c'est sortir du problème économique, c'est mettre fin à ce qui fonde la science économique, c'est-à-dire la rareté. Mais évidemment, Keynes, on peut constater tous les jours, s'est légèrement trompé, notamment parce que sans doute il a sous-estimé l'ampleur de l'envie, du désir, du souci de consommer toujours plus, d'imiter toujours plus les autres, et qu'il a pensé que les besoins absolus pourraient être satisfaits de façon assez facile.
En gros, Keynes a prêté à l'homme peut-être trop de vertu.
Je pense qu'il a voulu croire à des choses auxquelles il adhérait sans doute lui-même assez peu, puisque en termes personnels, il aura été quand même un grand jouisseur dans sa vie, et ses besoins, je pense, étaient quand même assez étendus.
Mais c'était une bonne idée, en tout cas, de choisir cet article juste avant la semaine de la COP21, au cours de laquelle va se jouer notre avenir. Merci Gilles, on passe sans transition au livre étranger que vous avez choisi de nous présenter.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs.
Alors Gilles, quel livre étranger avez-vous choisi de nous présenter? Là encore, j'ai envie de vous dire, vous avez choisi des stars.
Ah là, des superstars, même, parce que c'est à l'américaine.
Ouais.
C'est George Akerlof et Robert Shiller, rien de moins que 2 prix Nobel d'économie.
Exactement.
Alors, on sait que ce sont des faux prix Nobel, mais c'est quand même mieux d'être faux prix Nobel que d'être rien du tout.
Comment ça, des faux prix Nobel? C'est parce que ça s'appelle pas prix Nobel? Oh, oui, d'accord.
Non, mais parce que c'est donné par la Banque de Suède,
oui.
Et il y a eu plusieurs scientifiques.
C'est quand même le vrai. les vrais lauréats.
Non, voilà. Ça n'est pas. Mais c'est pas grave. Donc c'est assez rigolo. Donc ils ont tous les deux à peu près 70 ans. Akerlof est prof à Georgetown University. Ouais. Schiller est prof à Yale.
Ouais.
Ils sont spécialistes des comportements. C'est des grands spécialistes de la façon dont les gens prennent leurs décisions.
Et donc, qu'est-ce qu'ils racontent dans ce livre? C'est quoi leur thèse?
Ils racontent un truc absolument évident, mais qui est nouveau pour les Américains. C'est qu'en fait, le marché peut nous tromper. Il donne des exemples, donc ça fourmille d'exemples de la vie quotidienne. Donc c'est les sucreries qu'il y a aux caisses des supermarchés qu'on achète alors que on en a pas besoin, mais comme on n'a rien d'autre à faire à ce moment-là, on succombe à la tentation. C'est les crédits qu'on prend alors que là aussi on devrait pas s'endetter. C'est les voitures propres qui polluent pas, surtout quand elles roulent au diesel, qui nous trompent sur la nature du produit qu'on achète. Donc c'est toutes ces petites manipulation, ils nous disent
c'est un livre anti-marketing en fait.
Voilà, c'est l'anti-marketing, c'est l'économie de la tromperie et du mensonge. Et ils nous disent attention, c'est une force qui est très puissante dans l'économie, qui est aussi puissante que les bienfaits qu'on peut attendre des marchés. Évidemment, ce sont deux économistes américains, ils sont quand même très conscients des bienfaits des libres marchés, ils n'arrêtent pas de le répéter dans le bouquin. Mais ils nous disent la recherche du profit peut aussi être une source de manipulation, de tromperie du consommateur. Et le résultat, c'est quand même qu'on vit pas bien. Et évidemment, ils pointent deux problèmes majeurs aux États-Unis, qui sont le surendettement des populations, qui nous disent qu'il y a la plupart des Américains qui vont se coucher le soir en se demandant comment ils vont payer leurs factures. Et puis c'est l'obésité qui résulte là aussi des mauvais choix de consommation et d'alimentation.
Mais donc ils concluent, il y a des préconisations.
Et bien en fait, ils retournent à des choses assez basiques, mais en fait, ils cherchent à reprendre le fil de l'histoire américaine. Et ils rappellent que dans l'histoire américaine, l'État joue un rôle important, que les agences de régulation, les agences de certification de la qualité des produits permettent de limiter les tromperies. Et ils nous disent un système comme la retraite par répartition, dont on oublie parfois quel est le premier système de retraite, même aux États-Unis, que la retraite par répartition, ça résout un problème simple qui est qu'on a tous du mal à épargner pour nos vieux jours et que grâce au système de répartition, on aura tous une retraite.
Je vous sens un petit poil déçu par rapport à... par rapport à l'affiche, quoi.
Ben voilà, ce qu'il y a, c'est que par rapport à la stature des deux auteurs, on se dit que finalement, c'est des choses qui, pour nous, Européens, sont quand même assez évidentes. Puis il y a d'autres critiques du marché qui ne développent pas, comme les ententes, par exemple, entre les entreprises. Ce que moi, j'espère que ça aura comme conséquence, ce livre, malgré tout, c'est sur les manuels. Parce qu'il s'adresse beaucoup aux auteurs de manuels, en disant, arrêtez de raconter des sornettes. Même Stiglitz, quand il fait son manuel d'économie, il raconte des sornettes sur le fonctionnement des marchés. Il faut arrêter de présenter que la version positive des marchés, il faut aussi vous présenter l'autre face du fonctionnement des marchés.
Merci beaucoup Gilles Raveau, c'est l'heure de se retrouver pour nos choix de dernière minute.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Alors Jean-Marc, qu'avez-vous choisi de nous présenter pour cette dernière minute de l'émission ?
Alors j'ai choisi un petit livre qui est édité par la Harvard Business Review, de ces livres que l'on fait encore une fois en fin d'année, ou qui sont des livres assez agréables à lire, c'est des petites anecdotes. Des propos de table, ça fournit une liste d'anecdotes pour tenir le réveillon. Il y a donc ensemble d'événements qui
ça risque d'en avoir besoin.
Oui, absolument. Alors donc c'est chaque page il y a une anecdote, chaque page il y a un événement plus ou moins paradoxal,
ouais.
Et donc sur la vie quotidienne des Américains. Donc trois exemples qui m'ont paru intéressant. Le premier exemple, ça va un peu choquer notre ami Christian, c'est que l'Américain moyen a une aversion totale à l'impôt, et donc ils prennent des exemples où on leur dit, par exemple, vous avez droit à $120 sans impôt ou $160 avec $40 d'impôt, ils choisissent tout de suite $120. Et puis on leur dit $120 ou $160 et $35 d'impôt, ils continuent à choisir les $120 pourvu qu'ils n'aient pas à payer d'impôt. Donc cette aversion physique pour l'impôt. Il y a un autre thème qui est intéressant, c'est qu'ils ont regardé qu'elles étaient en fonction de leur diplôme, les gens qui étaient les plus généreux aux États-Unis dans les dons qu'ils font, et ceux qui sont les moins généreux, ce sont ceux qui ont fait des études d'économie. Et donc, ils se disent, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Puis alors, il y a une nouvelle intéressante, enfin, une information intéressante. Il y a quelqu'un qui a calculé combien coûtait un enfant aux États-Unis. À partir de cette question, pourquoi il y a de moins en moins d'enfants dans les pays développés? Et en fait, sur toute la durée de sa vie, entre le moment de sa naissance et le moment où il prend son autonomie, un ménage américain doit dépenser, normal, d'après leurs chiffres, $1.8 million. Et donc, ce sont des sommes colossales, en fait, qui expliquent pourquoi, en réalité, la démographie est aussi peu favorable, parce que ça a un coût très élevé et que la population s'en est aperçue de façon quasi physique.
Christian Chavagneux, votre choix de dernière minute.
On n'était pas encore au réveillon, donc un truc un petit peu plus sérieux et qui est l'histoire de la Grèce de 1829 à 2015. On s'aperçoit que ça fait la quatrième fois en fait que la Grèce a des problèmes de dette extérieure. Ça fait la quatrième fois qu'elle est obligée d'avoir recours à une aide de pays créanciers. Et à chaque fois, ça s'est passé de la même façon. Beaucoup d'apports de capitaux, une crise, impossibilité de rembourser. Et parmi la Troïka, on retrouve souvent la France, l'Angleterre, la Russie et même une fois l'Allemagne. Et à chaque fois, ça va se passer de la même façon. On va faire des prêts à la Grèce pour rembourser les anciens emprunts et on va lui imposer une politique d'austérité extrêmement forte. Conclusion des deux auteurs. Aux Grecs, attention, empruntez plutôt localement plutôt qu'emprunter de manière à l'étranger parce que sinon vous allez tomber en crise. Et aux créanciers, à chaque fois que vous avez prêté pour rembourser les prêts anciens, il a fallu de 30 à 50 ans pour que la Grèce revienne sur les marchés financiers internationaux. Il faut éviter ça. C'est pas bon pour les Grecs, c'est pas bon pour les pays qui veulent vendre aux Grecs. Il faut que les créanciers éliminent une partie de leurs créances.
C'est dingue ça, on a l'impression qu'on n'a rien appris. C'est Einstein qui disait « les fous sont ceux qui croient que reproduisant les mêmes causes, on ne produira jamais les mêmes effets. »
En économie, ça peut arriver.
En économie, ça peut arriver. Comme quoi, est-ce que c'est vraiment une science? Moi, j'ai choisi, allez, c'est la semaine de la COP21, on l'a dit. Alors, c'est un livre qui est court, qui est synthétique, et on en a besoin, vu la profusion de livres autour de la COP21. C'est 80 pages. C'est « Le déni climatique » de Thomas Porcher et Henri Landès. C'est très agréable, et puis ça a au moins le mérite de nous rappeler que nous sommes tous, au fond, des climato-sceptiques. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.